En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. » Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, nous sommes en quelque sorte dans des dimanches qui sont des dimanches d'attente, comme un peu ces dimanches après la Pentecôte qui s'écoulent à travers l'été. Non seulement parce qu'il y a comme un air de vacances à cause des personnes qui sont parties de Paris, qui vont faire le pont du 1er mai, mais aussi parce que nous attendons. Nous attendons que la grâce, que la source, la force de la résurrection nous donne ce courage, cette espérance de chaque jour. Mais nos vies ne sont pas faites de grands événements qui nous subjuguent, qui nous animent avec vivacité toutes les semaines. Et il y a en effet des moments qui sont longs, qui demandent notre patience, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe dans nos vies. Et pourtant, il est extraordinaire d'être venu à l'existence. Voyez-vous, lorsqu'il nous est donné la parabole des sarments, le Christ veut bien nous faire comprendre qu'il nous a transmis deux fois la vie. La première, c'est d'exister. Et dans notre monde contemporain qui veut être en bonne santé et prospère et riche, sans souci, l'existence même est mise en cause parce que nous voudrions être en parfaite santé et avoir de bons loisirs et de bons plaisirs. Et nous oublions que toute vie vaut la peine d'être vécue. Que l'existence, le fait d'exister, d'être vivant naturellement, d'avoir été enfanté par nos parents, est une grâce. Et on veut nous persuader que la vie est parfois trop triste ou trop pesante à cause des épreuves que nous avons pu avoir dans notre enfance, par exemple, ou plus tard, ou lorsque nous sommes fatigués par une maladie ou accablés ou affaiblis par l'âge qui vient et des années qui nous privent de notre activité pleine et entière. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la religion, dans la foi, il y a cette défense de la vie même naturelle. Parce que la vie n'est pas un hasard, elle est un don de Dieu. Une vie naturelle, de la conception jusqu'à notre mort, qui, pour les croyants, n'est pas une extinction et une disparition. Mais bien au contraire, la rencontre avec celui qui donne la vie. La rencontre avec celui qui est la source de la vie. Et quelle que soit la religion que les hommes ont inventée, eh bien il y a toujours, à l'issue de cette vie terrestre, une rencontre avec Dieu. Même le bouddhisme populaire n'est pas véritablement panthéiste, c'est-à-dire que il y a quand même quelque part une survivance de l'âme après la mort. Et les bouddhistes, finalement, prient Bouddha comme Dieu, alors qu'il n'était qu'un homme. Mais il y a une très grande aspiration à l'immortalité, plutôt qu'à la disparition dans le grand tout, dans le nirvana. Oui, nous voulons retrouver des êtres aimés, nous voulons continuer à vivre. Nous avons eu notre personnalité, nous voulons la garder après la mort. Eh bien, le Christ, lui, réalise cette profonde aspiration de la nature humaine en nous donnant la vie une deuxième fois. Cette deuxième fois, elle est authentique, elle est historique. Elle est même contre le constat ordinaire de l'homme, de celui même qui a reçu la révélation d'Abraham, celui qui a écouté les prophètes comme Saul. S-A-U-L. Saul qui va devenir Saint Paul et qui refuse que le Messie et le Sauveur d'Israël soient morts. Alors qu'il avait une profonde espérance comme tout son peuple. Mais cette espérance messianique était en effet comme celle d'aujourd'hui. Nous voulons de Dieu la santé et la prospérité. Et Jésus va les décevoir parce qu'il leur donne un commandement de vous aimer les uns les autres. Un amour plus important encore que la santé, un amour plus important encore que la prospérité, et qui fait que les pauvres peuvent être heureux quand ils aiment. Et quand il fuit le péché. Voilà une bonne nouvelle et une annonce qui nous saisit en ce temps de Pascal. En effet, voici que cette vie, elle est transfigurée par la résurrection d'un homme. Et Saul persécute les chrétiens. Il persécute ses frères et sœurs juifs qui croient que le Messie est mort et ressuscité et qui croient quelque chose de bien plus surnaturel encore. Saint Thomas touche les plaies de Jésus. Le Messie est ressuscité, mais il se met à genoux. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Dieu s'est fait homme. Et alors, lorsque Jésus nous donne cette parabole, il nous dit en effet de rester sur la vigne. Et si nous sommes des branches, nous devons vivre et recevoir la sève de cette vigne. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Il est le tronc et nous sommes les branches. Et nous recevons cette vie. Cette vie, ce n'est pas seulement notre vie naturelle. C'est la vie de la grâce. C'est la vie de ceux qui savent pardonner. C'est la vie de ceux qui savent porter le poids des jours. C'est la vie de ceux qui ne sont pas attachés à leur tristesse et à leur amertume, même si elles ont une vraie cause. Et si nous pouvons nous plaindre et parfois pleurer dans notre petit coin, parce que nous sommes accablés, fatigués, ou parce que nous avons été trahis, nous avons été blessés. Mais Jésus, lui, nous dit « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il est la parole du Père, il est le Verbe, il est le Fils, et il prend sur lui tous les péchés du monde. Toutes ses négligences, ses insouciances et ses malices, et il offre aux hommes la puissance et la force de se relever de leurs péchés. Parce que si l'homme reste dans sa haine, il est détaché du tronc, il se dessèche et il brûle. Oui, c'est un passage qui nous dit ce que nous ne voulons plus entendre de nos jours, parce qu'on a du mal à admettre l'existence de la haine choisie et perpétuelle, qui s'appelle l'enfer. Et des âmes très généreuses vont dire, même des prêtres, même des évêques, « Ah, oui, peut-être que l'enfer existe, mais peut-être que personne n'a choisi cet état de damnation, de haine de Dieu et de son prochain. » Ou si ça existe, c'est temporaire, c'est pas perpétuel. On rechigne devant le catéchisme de l'Église catholique. On rechigne devant Jésus qui nous prévient. Non, faites attention. La haine est un poison. Et vous pouvez choisir la haine pour toujours. Alors, il est temps de pardonner. On peut se défendre contre ceux qui nous ont blessés, on peut ne pas manger avec eux, on peut même mettre de la distance avec eux, même si ce sont des personnes de notre famille, s'ils sont très agressifs. Mais nous devons les recommander à Dieu. Nous devons leur pardonner. Pardonner ne signifie pas d'aller au-devant de celui qui nous frappe et nous blesse. Pardonner, c'est aimer, même nos ennemis, et souhaiter qu'ils se convertissent, qu'ils abandonnent leur haine et qu'ils vivent. De quelle vie? Mais de la vie de Dieu, et pas seulement d'une vie naturelle, mais d'une vie de ressuscité, d'une vie de victoire sur le péché et sur la mort. Alors, qui connaît tout cela parfaitement? C'est la Vierge Marie. Le mois de mai, c'est le mois le plus beau, il a été consacré à la Vierge Marie. Demandons-lui, elle qui est debout au pied de la croix, ce que c'est que le pardon. Demandons-lui la force, celle qui a attendu la résurrection de son Fils. Demandons-lui la joie, celle qui a vu son Fils ressuscité. Le chapelet, dans les différentes méditations qui sont proposées, nous font parcourir toutes ces vérités qui nous portent dans l'espérance. Alors, demandons à Marie de nous amener jusqu'à la Sainte Communion, de nous prendre par la main pour que nous venions vers son Fils et que nous recevions de lui la vraie vie, la vie spirituelle, la nourriture de notre âme dans la Sainte Hostie, et la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.